Vous écoutez RTL.
14h03 sur RTL, on retrouve Sidonie Bonnec et Thomas Hugues, que je salue.
Bonjour Christelle.
On vous salue aussi.
On vous embrasse.
Bien bas. On est au top de la curiosité, au top de la forme pour une heure d'histoire vraie jusqu'à 14h sur RTL. Bonjour Thomas.
Bonjour Sidonie, bonjour à toutes et à tous. Tout à l'heure, vers 14h30, on se mouche du coude, on se la coule douce,
oh,
on fait la bouche en cul de poule et on tombe de Charybde en Scylla. Bref, on remonte à l'origine des métaphores, ces expressions imagées qui font la richesse de notre langue française.
Mais avant, on raconte l'histoire de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Du haut de ses 50 mètres, l'Arc de Triomphe de l'Étoile domine la plus célèbre et sans doute la plus belle perspective urbaine du monde.
RTL.
C'est en 1806 que Napoléon, fidèle à l'antique tradition des empereurs romains, décide de faire élever à sa gloire et à la gloire de ses armées un gigantesque Arc de Triomphe.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour Chloé Belleret.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui week-end et en partenariat avec RTL, vous publiez un papier sur cette avenue des Champs-Élysées célébrée, baladée, chantée. À vos côtés, le journaliste Jean-Louis Maroux. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Alors, ça n'a échappé à personne. Les champs, ces derniers, comment on les appelle? Les champs.
Oui.
Et ces petits diminutifs. Ces dernières semaines ont été le centre de la tension et des tensions aussi.
Bien
c'est
sûr.
Le lieu des affrontements entre gilets jaunes et policiers, le symbole d'une richesse mal partagée. Alors que cet été, ces champs étaient tout à leur joie de célébrer les bleus champions du monde. Eh bien, c'est ce qui nous a donné envie, à nous les curieux, de connaître un peu mieux son histoire. Chloé Belleret, on va commencer par la décrire, cette avenue des Champs-Élysées. Elle se situe où dans Paris et elle est longue comment? Combien même?
Alors, elle se situe dans le 8e arrondissement de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est globalement le nord-ouest, voilà, nord-ouest de Paris. Elle fait à peu près 2 km de long. Pour 70 de large.
Elle est bien droite.
On ne peut plus rectiligne.
L'avenue des Champs-Élysées, oui, c'est vrai.
Alors, on dit la plus belle avenue du monde. Est-ce qu'il y a un classement? Est-ce qu'il y a un classement officiel pour décréter que les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde?
Pas à ma connaissance. Moi, je pense qu'on s'est surtout autoproclamé.
Jean-Louis Maroux, vous qui avez étudié l'histoire de cette avenue, il n'y a pas de déclaration officielle?
Il n'y a aucune déclaration officielle et apparemment, c'est apparu relativement tard.
Oui.
Dans l'histoire de cette avenue qui a quand même près de 3 siècles, en fait.
En revanche, c'est l'une des plus chères avenues du monde, ça c'est sûr. Elle est dans quel top, Chloé Belleret?
Alors, elle est dans le top 5 des artères commerçantes les plus chères du monde. Elle arrive en 4e position, pour être exacte. Et elle se classe juste derrière le Causeway Bay à Hong Kong, la 5e avenue à New York. Et l'avenue londonienne dont le nom m'échappe, qui s'appelle New Bond.
Bon, on est nus parce qu'on ne l'a pas en tête non plus. En fait, on ne fait pas nos courses là, hein, c'est un peu trop cher, c'est pour ça qu'on ne la connaît pas.
New Bond Street, voilà.
D'accord.
Parce qu'on n'osait pas trop prononcer en anglais.
Non, ça doit être ça. Jean-Louis Maroux, vous publiez Paris retrouvé sur les traces d'un passé caché chez First. Alors, on a bien compris, Chloé va nous parler des Champs-Élysées d'aujourd'hui, de la dimension business, des loyers dingues, et vous allez nous permettre de remonter dans le temps. À quoi ressemblaient ces Champs-Élysées, qui ne s'appelaient peut-être pas encore comme ça, au XVIe siècle?
Alors, il faut faire un sérieux effort d'imagination. Il faut imaginer la campagne, un paysage de campagne. La ville s'arrêtait en gros au bout du jardin des Tuileries, à l'actuelle place de la Concorde, qui n'existait évidemment pas. Ouais. Au-delà des Tuileries, il y avait une espèce de marécage. Enfin, en tout cas, un lieu qui était occupé par l'eau quand la crue de la Seine sévissait. Et puis, au-delà, gentiment, on montait vers une colline, la colline du Roule. On montait par un paysage de blé, d'avoine,
de
avec
forêt,
de temps en temps des masures.
Oui. Ah oui.
Est-ce que c'est vrai qu'on l'oublie tout en haut des Champs-Élysées? En fait, il y a une colline et l'Arc de Triomphe est érigé sur cette colline, la colline du Roule.
La colline du Roule, effectivement.
Et quand est-ce que les Champs-Élysées commencent à s'appeler les Champs-Élysées?
Alors, les Champs-Élysées commencent à s'appeler les Champs-Élysées. La date exacte, on ne la connaît pas. C'est au début du XVIIe siècle.
D'accord.
Elle apparaît dans un document officiel, dans un document de la cour royale, en fait. Vous avouerez que c'est quand même une appellation d'érudit.
Ouais,
je pense que les Parisiens ne l'auraient pas appelé comme ça.
Ça veut dire quoi, Champs-Élysées, en fait?
Alors,
dans la mythologie qu'on retrouve cette expression.
C'est une référence à la mythologie grecque, et c'est une référence à un lieu des enfers, où on enterrait, où se retiraient, plus exactement, les héros du combat ou les citoyens grecs vertueux.
Donc on ne sait pas qui donne ce nom de Champs-Élysées, en fait. Ça peut être un fonctionnaire ou...
Si, on le sait. Alors, qui en est-ce fait, autour du roi Louis XIV, le roi Soleil, quand il est jeune, il y a une petite cellule. On dirait aujourd'hui une cellule de communicants, en fait.
C'est drôle.
Éric Orsenna dit dans son bouquin sur le nôtre, il dit des idéologues. Mmh. Et alors, ces gens étaient là pour penser l'image du roi Soleil.
Écrire la légende.
Écrire la belle légende du roi Soleil. Et donc, on a eu cette idée parce que tout simplement, le palais des Tuileries était dans la course du soleil, en fait. On va vers l'ouest, là où le soleil se couche.
Et donc, cette perspective.
L'éternité, la mort, etc.
Ah, magnifique. Chloé Belleret, il y a 100 millions de visiteurs qui viennent chaque année sur les Champs-Élysées. C'est quoi? C'est des touristes? Quel type de population? Est-ce qu'on peut la décrire un petit peu, cette population?
Alors, on trouve absolument de tout. C'est ce qui fait sa spécificité. Il va y avoir à la fois des touristes étrangers, vous l'avez dit, des Chinois, des Coréens, des Japonais, des Saoudiens, des Qataris. Tous les Européens, bien sûr. Mmh. Et puis, on a aussi cette population qu'on appelle aujourd'hui les millénials, les jeunes, beaucoup issus de quartiers populaires d'ailleurs, de banlieues, qui viennent flâner comme ça le week-end. Et finalement, des Parisiens, qui habitent la ville intramuros, un peu moins.
Et combien coûte le mètre carré à louer ou à acheter pour les plus riches sur les Champs-Élysées? Révélation dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La plus belle avenue du monde n'offre qu'un point culminant.
RTL.
Bien, nous sommes ici sur l'acrotère de l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire sur l'emplacement où aurait dû être construit une gigantesque statue, puisque au départ, lorsque le monument a été édifié au niveau des plans, il aurait dû y avoir un gigantesque quadrige qui finalement n'a pas été réalisé.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Revoir Paris.
C'est l'avenue aux 100 millions de visiteurs. On découvre les Champs-Élysées d'aujourd'hui et d'hier avec Chloé Belleret, journaliste au Parisien aujourd'hui week-end, et le journaliste Jean-Louis Maroux qui a enquêté sur l'histoire de ces Champs-Élysées pour un livre publié chez First. Alors, dans les Champs-Élysées d'aujourd'hui, ça coûte combien? C'est une adresse en or pour les commerçants déjà. Pourquoi, Chloé Belleret?
Oui, absolument. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, 100 millions de visiteurs par an, ça en fait du passage.
Oui. Du coup, c'est des 100 millions de porte-monnaie potentiels.
Exactement. Donc, il y a une visibilité qui est assez exceptionnelle.
Ça coûte combien le mètre carré à la location? On a une idée de ça?
En moyenne, il est estimé à 16 350 euros par an et par mètre carré. Mais après, il y a des fortes disparités. Ça dépend en fait des surfaces, de l'emplacement. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, pour des petites surfaces, enfin, ce qu'on appelle des petites surfaces, en réalité, c'est à peu près moins de 600 mètres carrés. Ça va chercher dans les 19 000 euros du mètre carré par an.
Oui, c'est énorme.
C'est exorbitant.
Et si on veut acheter, si Denis, elle cherche un nouvel appartement, là, un petit 100 mètres carrés sur les Champs.
Je crois que ça va être un peu cher. Je n'ai pas les chiffres exacts parce que c'est le logement, c'est encore autre chose. Ouais. Mais pour en revenir aux loyers commerciaux, par exemple, on estime parmi les dernières transactions...
Oui, les grandes marques.
Les grandes marques, voilà, derniers installés. Mmh. Parmi les derniers installés, il y a le Megastore Apple, qu'on connaît tous. Et bien, par exemple, on estime leur loyer annuel à 14 millions d'euros. C'est considérable.
Il faut vendre de l'ordinateur
pour rentabiliser.
On parle de transactions aussi, vous racontez ça dans votre article du Parisien Week-end, Chloé Belleret, de transactions, on parle de numéros aussi, parce que les numéros sont mythiques sur les Champs-Élysées. Il y a par exemple deux numéros qui ont été vendus ces derniers mois, le 79 et le 114. Quelles sont ces transactions? Qui achète quoi pour faire quoi?
Alors,
et à combien?
Alors là encore, les sommes sont
650 millions d'euros.
Alors il y a en moins d'un an, on a vu passer deux super transactions. La plus récente, c'est l'immeuble justement où est installé le futur magasin Nike. Qui s'installera, qui ouvrira bientôt ses portes, enfin cette année. Et bien cet immeuble, le 79, il a été vendu quand même 613 millions d'euros. Et c'est un fonds souverain norvégien qui a racheté.
Jean-Louis Maroux, si on remonte un peu dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui ça fait partie de nos vies qu'on ait eu la chance de visiter Paris, les Champs-Élysées ou pas.
Ou qu'on aime Joe Dassin.
On connaît cette avenue, ou qu'on aime Joe Dassin, bien sûr, ça reste bien dans la tête. On l'a eu toute la journée, la chanson de Joe Dassin, ça, c'est sûr. Qui a tracé cette avenue-là, cette ligne droite entre les Tuileries et donc cette colline du Roule, hein. Qui a eu l'idée?
Ça s'est fait en fait à l'époque de Louis XIV. Mais alors, quand on dit Louis XIV, c'est vraiment le jeune roi soleil, il est tout jeune.
Donc, c'est pas lui qui le demande, Louis XIV. Il a quelques années à peine.
C'est pas lui qui le demande. En fait, on essaye. Dans les années 1660, en fait, Louis XIV commence à loucher sérieusement sur le pavillon de chasse de son père à Versailles. Mmh. Et on essaye de le ramener, en particulier Colbert, le principal ministre, essaye de ramener son attention, en tout cas sa présence, dans Paris.
Dans la ville.
Alors, non pas tant au Louvre, parce que le Louvre est un vieux palais sans grand intérêt, mais aux Tuileries, qui sont juste devant. Ce palais qui a été construit par Catherine de Médicis, et qui a la particularité d'avoir un jardin et de donner au-delà sur la campagne.
Donc les Champs-Élysées, ça serait comme une promenade pour Louis XIV, c'est ça? C'est ce que promet Colbert à son petit roi?
C'est effectivement une allée qui prolonge le jardin des Tuileries, qu'on va à cette époque complètement remanier, en fait. Et cette allée est projetée, alors c'est ça le coup de génie, en fait. Cette allée est projetée vers la colline, vers l'horizon. En fait.
Ouais. Et ce coup de génie, qui c'est qui va le réaliser? C'est André Lenôtre. Qui est-il et que fait-il alors de cette future avenue des Champs-Élysées?
Alors André Lenôtre, tout le monde le connaît, hein, c'est le jardinier de Versailles. Quand on dit jardinier, d'ailleurs, c'est un peu péjoratif, car il est beaucoup plus que ça, en fait.
Oui. C'est un paysagiste ingénieur,
au sens moderne. Ouais. C'est assez étonnant. Alors évidemment, il est issu d'une famille de jardiniers. Hein, son père était jardinier, son grand-père était jardinier aux Tuileries.
Qu'est-ce qu'il trace alors sur les Champs-Élysées?
Il trace une allée, mais vraiment directe. C'est-à-dire qui sort du jardin des Tuileries et qui est projeté vers la colline.
Avec des arbres? Il imagine qu'il y aura des arbres
sur le bas de l'allée, la partie basse, vous voyez, à la hauteur de la Concorde, vous avez des quinconces de tilleuls. Mm-hmm. Très simplement, en fait. Alors quinconce, hein, des arbres intercalés comme ça. Et puis au-delà, c'est une allée cavalière qui monte sur la colline, en fait, vers le sommet de la colline.
Et au sommet de cette colline, aujourd'hui, il y a l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile avec ses 12 branches. Il a déjà cette idée-là d'un mot?
Alors pas du tout. En fait, au sommet de la colline, il y a tout simplement 5 allées cavalières qui arrivent.
D'accord.
Sur cette allée cavalière, on fait ce qu'on fait dans tous les grands domaines seigneuriaux. On installe une espèce de rond-point qu'on appelle l'Étoile. Et alors, il y a un phénomène extraordinaire, c'est que l'étoile et le rond-point sont deux termes qui sont empruntés aux domaines seigneuriaux à l'époque de Lenôtre et qu'on va retrouver sur toute l'histoire des Champs-Élysées, en fait. L'étoile, c'est un truc que vous pouvez retrouver dans les grands domaines seigneuriaux de Fontainebleau, de Versailles, etc.
Allez, on vous révèle d'autres secrets sur cette place de l'étoile qui fascine et qui fait aussi frémir les jeunes conducteurs et les vieux. Enfin, je parle de moi, les vieilles. À tout de suite.
D'un seul coup, vous allez découvrir ces Champs-Élysées, cette plus belle avenue du monde.
Bonsoir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est la première de Champs-Élysées, les jardins des Champs-Élysées, là où Marcel Proust en 1880 est mené à jouer au cerceau. C'est là où nous nous retrouverons.
Sur RTL.
La mythique émission Champs-Élysées de Michel Drucker qui était tournée pavillon Gabriel au pied des Champs-Élysées, du rond-point des Champs-Élysées.
Les jardins du pavillon Gabriel donnent sur les champs.
C'est la plus belle avenue du monde, enfin c'est nous qui le disons. L'une des plus chères, ça c'est sûr, c'est la 4e avenue commerçante la plus chère au monde. Elle est une adresse en or pour les commerçants, les manifestants, les champions du monde de foot. On vient y montrer sa joie ou sa colère, elle nous passionne dans la curiosité. Jean-Louis Maroux, quand l'avenue des Champs-Élysées devient-elle vraiment populaire? Quand est-ce que ça fait plaisir de s'y promener?
Alors ça a commencé plutôt vers la fin du 18e siècle, juste avant la Révolution en fait. On voit les financiers, des gens très, très aisés, s'intéresser tout à coup au bas des Champs-Élysées. Ils commencent à se faire construire des somptueux hôtels particuliers. Vous connaissez tous l'Élysée. Bien, l'Élysée, c'est un des témoignages de cette époque-là qui avait été construit pour le comte d'Evreux et qui ensuite a été offert par Louis XV à la marquise de Pompadour. Genre.
J'adore.
Joli cadeau. Oui. À l'époque, on commence à voir apparaître des cafés. Alors c'est la grande époque du café, hein, 18e siècle, joli lieu, souvent très bien décoré. Oui. Et donc de fil en aiguille, on va installer un lieu de loisirs en fait, mais de loisirs simples. Hein. Pendant la Révolution, on joue aux quilles, à la paume, on vient prendre l'air tranquillement.
Et un lieu de manifestation, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le lieu où le peuple français, en tout cas symboliquement, se réunit pour les grandes occasions, qu'elles soient heureuses ou malheureuses.
Oui, alors il faudra attendre la Révolution sans doute. pour qu'on voit apparaître des mouvements de foule. Il y a un mouvement de foule célèbre, c'est le retour à Paris du roi et de la reine en 1789, en octobre, accompagné par les dames du peuple. Ouais. Et donc, c'est arrivé là. L'entrée sur les Tuileries se faisait de ce côté-là, en fait.
C'est peut-être le premier grand rassemblement populaire sur les Champs-Élysées.
Sans doute. Alors, populaire, ça vous jugez.
Oui,
c'est un
sûr.
Grand rassemblement, oui, oui. C'est sûr. Incontestablement, il y en a eu un autre. C'est quand on a ramené le roi de Varennes de cette fuite scandaleuse. Il est rentré par là aussi.
D'accord.
Puis il y en a un autre qui est moins glorieux, hein, qui est la décapitation du roi, juste au bout, là, sur la place, à l'entrée des Champs-Élysées, en fait.
En bas des Champs.
La place de la Concorde aujourd'hui.
Place de la Concorde.
Ouais. Jean-Louis Marou, vous publiez Paris retrouvé sur les traces d'un passé caché, c'est chez First Edition. Et cette place de l'Étoile, elle est vraiment incroyable. Il y a 12 avenues donc, qui partent de la place de l'Étoile. Et il y a aussi des hôtels particuliers qui marquent la perfection du lieu. Pourquoi ?
Alors, à l'origine, il y en avait 5 avenues, hein, sous Louis XIV. Mmh. Ensuite, à l'époque de Louis XV, on a arasé la colline, c'est-à-dire qu'on l'a aplanie, on a fait une espèce de grande place octogonale avec 8 allées. Ensuite, il a fallu attendre Haussmann pour qu'on crée ces 12 magnifiques avenues. À ce moment-là, ce sont vraiment des avenues. Et l'architecte Hittorf a l'idée géniale de construire des hôtels particuliers entre les branches, entre les 12 branches de l'Étoile.
Ils se ressemblent tous, ces hôtels particuliers.
Ils sont tous pareils.
Ce sont les mêmes.
Alors, il y a une mauvaise langue qui s'appelle Victor Hugo, qui les trouvait absolument déplorables, parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur de l'Arc de Triomphe. Vous imaginez des immeubles de 50 mètres de haut, ça aurait été complètement ridicule.
Eh oui.
Bon, ça n'engage que Victor Hugo.
Ah, il n'a pas dit que des choses intelligentes, on va dire ça entre nous.
Il s'est beaucoup mêlé de choses à Paris, il a dit pas mal de conneries, effectivement. Oui. Il faut partir... Quand vous voyez cette place qui fait 240 mètres de large, c'est génial.
Ouais.
Avec ces hôtels qui sont tous identiques, c'est quand même assez stupéfiant comme décor.
Et pourquoi la circulation, elle n'est pas organisée sur la place de l'Étoile ? Moi, c'est la provinciale qui parle, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Ça fait longtemps qu'on circule n'importe comment sur cette place de l'Étoile ?
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme ça à Paris plusieurs places sans feu rouge, en fait. Mmh. C'est une espèce de, comment on va dire, c'est une espèce de tradition parisienne. Il y a 2 ou 3 lieux
comme
ça.
C'est un test, c'est ça.
Plus fluide.
Alors,
c'est
ça doit être un test. Oui. Peut-être que c'est effectivement plus fluide.
Et au centre de cette place de l'Étoile, en haut des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, colosse épatant, abîmé, dégradé par certains manifestants il y a quelques semaines. Il est pourtant le symbole d'une patrie courageuse. On va vous raconter son histoire. Mais saviez-vous qu'il n'était qu'un socle ? Oui, un socle. Il ne serait pas
un
terminé.
Un piédestal, quoi.
Exactement. On vous raconte son drôle de destin sur RTL.
L'Arc de Triomphe, trône, je devrais dire triomphe, tout au bout de la perspective unique au monde des Champs-Élysées.
Tes nuages mangent le ciel, emballez la tour Eiffel, Paris.
RTL.
Je t'aime, tu m'énerves.
La curiosité est un vilain défaut.
Impératrice bruyante, Paris.
Thomas Hugues. Sidonie Bonnec.
Brigitte qui chante Paris, Philippe Gildas qui nous raconte les Champs-Élysées. On découvre l'histoire des Champs-Élysées, 2 kilomètres rectilignes qui relient les Tuileries à l'Arc de Triomphe. Toujours avec nous la journaliste du Parisien Week-end, Chloé Belleret, et Jean-Louis Marou, journaliste qui a travaillé sur l'histoire de Paris et de cette avenue. Là, on va parler, Jean-Louis Marou, donc de cet Arc de Triomphe. Quel triomphe fait-il, célèbre-t-il ?
Austerlitz,
ouais.
La victoire d'Austerlitz.
1806.
On aurait
je vous ai bien lu.
Enfin, 1806, c'est la date de lancement de l'arc.
Ah oui, non, pas
Austerlitz,
du tout.
Austerlitz, c'est 1805.
Oui, bien sûr.
Mais c'est pas grave.
On était presque...
Oh non, près.
C'est le retour de...
L'histoire ou presque.
C'est le retour de Jean-Marie, à peu près. Bien. C'est l'architecte, je crois, alors là, j'espère que j'ai bon, c'est Jean-François Chalgrin, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'il a en tête ? Qu'est-ce qu'il veut faire ?
Alors, Jean-François Chalgrin, c'est un prototype du XVIIIe siècle. Il n'a en tête que l'architecture classique, Rome, l'Antiquité, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se caler sur les arcs de triomphe de Rome, en fait, tout simplement. Mais alors, il va amplifier la chose à une échelle jamais atteinte.
C'est-à-dire que c'est plus grand ? Il va faire un arc de triomphe plus grand que les Romains ?
50 mètres de haut, 45 mètres de large. Vous imaginez 50 mètres de haut, ce que c'est ? En fait, c'est un immeuble de au moins 15 étages. C'est absolument gigantesque. Et il va surtout faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, on mettait des décors de colonnes, en fait. Ce que vous voyez sur le petit arc au bout, là-bas, du carrousel du Louvre, lui, il va faire des pieds droits, en fait. C'est presque un éléphant. Et il va couvrir ses pieds droits de motifs sculptés, en fait, qu'on appelle des hauts-reliefs et pas des bas-reliefs, parce qu'ils sont un peu plus profonds. Voilà, c'est ça l'idée de Chalgrin, en fait.
Mais est-ce qu'il voulait le surmonter de quelque chose? On dit que, par exemple, Louis XIV, déjà, lui, il rêvait qu'en haut de cette colline du Roule où il y a l'Arc de Triomphe, il rêvait d'un éléphant.
Oui, alors l'étoile, la place de l'étoile, ça a été un fantasme extraordinaire. Louis XIV a voulu y construire un éléphant.
Mais pourquoi un éléphant ?
Symbole de puissance, symbole de conquête, Hannibal, Alexandre et Louis XIV.
D'accord.
Ensuite, Louis XV a failli y construire un obélisque blanc, magnifique, comme à Washington. Et puis ensuite, on a fantasmé comme ça sur des tas de choses à cet endroit. Il y a eu un concours en 1798 qui n'aboutit à rien. Finalement, c'est Napoléon qui a remporté le morceau, si je peux dire, avec son Arc de Triomphe.
Mais avec l'idée quand même de le surmonter.
Alors, l'idée de le surmonter dès le début.
D'accord.
Alors, tout y est passé. On a voulu mettre un char. C'est classique, un char de la victoire, comme sur l'Arc du Carrousel. Après, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas la statue de l'empereur ? Alors, vous imaginez la statue monumentale, comme sur la colonne Vendôme. On a même imaginé de mettre l'empereur sur un globe terrestre, en fait. Magnifique, absolument ravissant.
Et puis après, on a abandonné, parce qu'apparemment, il n'y a rien
on a
sur
abandonné
l'Arc
Napoléon,
du Triomphe.
On a abandonné l'éléphant, on a tout abandonné. Ouais. La monarchie, le retour de la monarchie, a imaginé d'y installer une couronne. Splendide, non ? Une couronne gigantesque sur l'Arc de Triomphe. Évidemment, l'idée n'est pas passée. Et finalement,
on s'est dit.
Ben, on n'a rien fait.
Voilà. Quand toutes les idées sont mauvaises, on reste simple.
Il y a eu un délire pendant un temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a voulu construire un éléphant sur la place de la Bastille à l'époque de Napoléon. Et puis le projet a été écarté. On s'est dit, mais finalement, pourquoi on ne met pas l'éléphant sur l'Arc de Triomphe ?
C'est très drôle, mais ça a pris du temps de construire cet Arc de Triomphe.
30
parce
ans.
Que... Ah oui,
30
effectivement.
Ans.
Donc c'est Napoléon Ier qui lance le projet. Et ça se termine.
Ça se termine sous Louis Philippe. En fait, 30 ans plus tard, 1836.
Chloé Belleret, avec vous, on continue d'arpenter ces Champs-Élysées. Est-ce qu'il y a un côté plus cher que l'autre sur les champs ? Numéro pair, numéro impair ?
Oui, absolument. Le numéro pair est beaucoup plus cher.
Pourquoi ?
Qu'en face. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, elle est toute bête, c'est que c'est le côté qui est ensoleillé.
Ah oui.
Donc, on s'y promène plus facilement.
C'est
plus
lumineux.
Et puis, traditionnellement, et c'est vrai qu'il y avait plus d'enseignes de ce côté-là au départ, même si aujourd'hui, ça s'équilibre un peu. Mais il y a des écarts de prix très importants et ça se vérifie notamment sur les moyennes surfaces, où là, on peut voir que ça peut être 40% plus cher.
Du simple du côté ensoleillé. Vous nous parliez des grandes enseignes qui viennent s'installer sur les champs. Il y a une bagarre rapidement entre géants de la téléphonie en ce moment, c'est ça ?
Ah, complètement. Les trois, on a Apple, Samsung et le chinois Xiaomi qui se sont installés, qui ont installé leur fameux, alors comme ils disent dans leur jargon, flagship, ce qui veut dire rien de plus qu'un magasin amiral, donc une surface démesurée, vraiment la vitrine. Alors pour certains c'est la vitrine française, pour d'autres européenne, comme le chinois Xiaomi là, qui vient justement d'ouvrir il y a quelques jours ses portes. Là c'est carrément son plus grand magasin d'Europe, c'est du délire.
Les Champs-Élysées, c'est pas que du business, ce sont aussi des balades à venir pour les vélos. On vous raconte ça dans un instant sur RTL, et puis on va se passionner pour les métaphores dans la seconde partie de l'émission. Que veut dire couler de source ou prendre des vessies pour des lanternes? C'est vrai qu'on emploie ça sans vraiment savoir.
D'où ça vient aussi.
Et grâce à la curiosité, on saura. À tout de suite les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On se promène sur l'une des plus belles avenues du monde, les Champs-Élysées à Paris. C'est un lieu d'expression, une vitrine du business, mais pas seulement. On apprend avec la journaliste Chloé Belleret du Parisien aujourd'hui week-end que cette adresse en or, on pourra s'y balader à vélo. C'est pour quand ça ? Une piste cyclable sur les Champs-Élysées ? Waouh !
Alors, les travaux sont en cours, c'est pas encore fait, mais on peut imaginer pouvoir y circuler à la fin de l'année.
Donc ça sera une piste cyclable, vous savez, dans les deux sens quand même ?
Dans les deux sens, voilà. Donc c'est peut-être...
Protéger de la circulation, parce qu'on n'est pas toujours en sécurité quand on fait du vélo à Paris.
Oui, ça sera en site propre et...
Et vous mettrez votre casque, Thomas ? De toute façon.
Oui, c'est recommandé. Hein.
Ça, c'est sûr. On n'oublie pas les bons conseils. Merci beaucoup, Chloé.
Merci, Chloé Belleret. Votre article à lire est à lire dans Le Parisien aujourd'hui, week-end, en partenariat avec RTL Demain et Jean-Louis Marou pour découvrir toute l'histoire de ces Champs-Élysées, de ce Paris retrouvé. C'est donc Paris retrouvé sur les traces d'un passé caché aux éditions First. À très bientôt, au micro de la curiosité.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.